Bien sûr, un abîme sépare le victimisme opportuniste et des figures comme Honnête, Butler, Agamben, Girard, Derrida et Lévinas, sur lesquels nous avons prélevé des associations assonances plutôt que des arguments. Mais c'est un abîme qui peut être un parcours, et le fil qui unit les extrêmes est une ontologie commune de la faiblesse, de la nudité et du manque. L'humain se définit à travers ce qu'il ne peut pas faire. Au milieu de l'abîme se trouve toujours le vide. Il faut maintenant tourner le regard vers ce vide que la mythologie de la victime propose de combler. De quoi est fait ce vide? Quand a-t-il commencé? Notre hypothèse est que cette mythologie n'est pas le symptôme d'une condition ontologique, mais d'une situation historique. L'historique est ce qui a eu un jour un commencement, l'introduction d'une discontinuité, l'émergence d'une positivité, aurait dit Foucault, jusque-là inexistante. Fragilité et moralité existent depuis toujours. Ce n'est pas le cas de l'idéologie victimaire. Essayons alors de retracer son commencement et la fonction, voir les origines et les causes des différents usages stratégiques que l'idéologie fait d'éléments soit inhérents à la condition humaine. Faisons un pas en arrière, même s'il n'est pas trop grand. Merci beaucoup, Daniel Gilly, d'être avec nous pour parler de votre livre « Critique de la victime ». En compagnie de votre traductrice Marine Aubry-Morissy. Ce livre vient de paraître aux éditions Herman. Et une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité qu'il existe dans la collection, c'est qu'il me semblait particulièrement d'actualité, posant des questions qui, en général, sont les questions à laquelle on ne veut pas répondre, sur lesquelles on passe, des questions qui peuvent paraître provocatrices, puisque la victime, comme vous le dites, a un statut d'intouchable, et que critiquer la victime, ou l'idée d'une critique de la victime, peut d'emblée passer pour une proposition qui flirte avec le scandale le plus conservateur, ou pire. Et cette proposition de pratiquer une critique au sens profond, divers de ce terme-là et de son utilisation idéologique, me paraissait particulièrement importante aujourd'hui. Comment est-ce que vous situez ce livre, cette question, dans l'évolution de vos travaux?
Alors, questo libro è stato concepito verso la metà degli anni 2000, insieme ad altri libri. Io allora non sapevo che ne avrei scritti quattro. Su temi molto simili, che erano la rappresentazione del terrorismo, la presenza ossessiva del tema del trauma in società che lo conoscono molto poco rispetto a quello che è stata la storia europea o che è tutt'oggi la storia nel resto del mondo.
Ce livre a été pensé vers la moitié des années 2000, l'idéologia en même temps che d'autres livres. Come luogo intoccabile, je ne le savais pas encore, et j'en écrirai quattro autres sur des temi très similaires. La représentation du terrorisme, la présence obsessionnelle du thème du traumatisme au sein de sociétés qui le connaissent très peu par rapport aux sociétés européennes du passé ou au reste du monde, l'idéologie de la victime comme lieu intouchable et thème plus général, celui de mon dernier livre, État de minorité, en référence à la fameuse expression de Kant, les lumières sont la sortie de l'homme hors de l'état de minorité. Qui résume tous ces thèmes comme des manifestations, des représentations, des explications, des tentatives de donner une explication mythologique à ce sentiment d'impuissance diffuse, politique et sociale, et parfois individuelle qui assiège, je crois, nos sociétés contemporaines. En effet, le dernier livre, État de minorité, aurait dû s'appeler État d'impuissance. Mais dans un pays latin, personne ne l'aurait acheté parce que les hommes sont trop superstitieux pour cela. En réalité, je ne suis pas philosophe ou chercheur en théorie politique. Je m'occupe de littérature. Mon livre précédent s'occupait du personnage manipulateur dans le roman français du XVIIIe siècle et partait d'un long approfondissement sur des personnages comme le pédagogue, la tradition de Télémaque de Fénelon, l'éducation libertine, qui a toujours une composante pédagogique forte, tout Rousseau, le législateur, le pédagogue de l'Émile, Volmar dans la Nouvelle Héloïse, et vers la fin, la figure du conspirateur, du complot, l'idée de complot qui prend racine, même avant la Révolution française, et qui est la principale explication réactionnaire de la Révolution française. À l'époque, je ne le savais pas, je ne connaissais même pas le mot, mais ce qui m'intéressait était ce que les anglo-saxons appellent l'agency, l'agentivité, le pouvoir-faire.
Le travail que vous mettez en place, qui est une réflexion sur la manière dont la possibilité d'agir est confisquée dans le monde contemporain, de plusieurs manières, par bien sûr une superstructure qui, de plus en plus technocratique, tente à éloigner les gens des zones de contrôle et des possibilités de contrôle sur les mécanismes économiques, mais aussi à un niveau idéologique discursif qui consiste à poser la victime comme position ontologique dont on ne peut en quelque sorte pas faire la critique ou qu'on ne peut pas dépasser en termes de maximum d'horreur et finalement presque de manière non historique. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette ontologisation du statut de victime qui masque cette impuissance, enfin qui affirme plus exactement une impuissance radicale de l'être humain face à ce qui lui arrive?
La vittima è sicuramente una figura dell'impotenza. La vittima reale, la vittima che ha veramente subito un torto, è tale in quanto non era in grado di difendersi, di reagire. A me interessava l'ambiguo intreccio tra le figure delle vittime reali, o soprattutto degli eredi dei gruppi vittimizzati in passato, e le vittime, in qualche modo, la vittimizzazione immaginaria. Per esempio l'uso che i personaggi potenti, capi di Stato, persone molto ricche, fanno della retorica vittimaria. Non potete criticarmi, io ho diritto a non essere criticato da voi, non per qualcosa che io faccio di giusto e che sono in grado di dimostrarvi che è giusto, ma per il fatto che io sono una vittima. Perché mi odiate tutti? Perché ce l'avete con me? Perché lo chiamo ontologizzazione? È chiaro che possibilità di subire, impotenza, sono condizioni in qualche modo natali della nostra esistenza. L'essere umano nasce inerme, è un feto prematuro, non ha accesso al linguaggio prima del primo anno di età. In qualche modo è stato programmato male dal designer, da questo punto di vista. Ha un percorso di addestramento alla maturità lunghissimo. È proprio per questo che Kant prende la metafora dell'età della vita e dice modernità, illuminismo, in qualche modo, è maturità, è uscita dallo stato di minorità. Quello che però io rifiuto è da una parte...
La vittima è, c'è sûr, una figura dell'impuissance. La vittima réelle, che ha vraiment subi un tort, è una vittima car elle n'était pas en mesure de se défendre, de réagir. Ce qui m'intéressait, c'était l'enchevêtrement ambigu entre les victimes réelles et surtout les héritiers des groupes victimisés par le passé et les victimes imaginaires. Par exemple, l'usage que les personnages puissants, les chefs d'État, les gens fortunés, font de la rhétorique victimaire. Vous ne pouvez pas me critiquer, j'ai le droit de ne pas être critiqué par vous, non pas parce que je fais des choses justes, que je peux démontrer, mais parce que je suis une victime. Pourquoi me détestez-vous tous? Pourquoi êtes-vous tous contre moi? En ce qui concerne l'ontologisation, pourquoi je l'appelle ontologisation de la victime? Parce qu'il est clair que la possibilité de subir, l'impuissance, voilà les conditions naturelles de l'homme, qui naît sans défense. C'est un fœtus né prématurément, il ne parle pas avant l'âge d'un an. Il a été en quelque sorte mal programmé par son designer. Il a une période d'éducation à la maturité qui est très longue, d'un certain point de vue. C'est pour ça que Kant utilise la métaphore des âges de la vie et dit que la modernité, les lumières, c'est la maturité, la sortie de l'état de minorité. Mais ce que je refuse, moi, c'est que cela puisse suffire à une définition de l'humain. L'humain comme le sans défense, le glabre. Moi, je crois que l'humain est caractérisé par sa puissance, au sens où l'entendait Spinoza. Pour son être indéterminé, versatile, qui n'a pas de futur prédéterminé. C'est la dynamis. Kant disait toujours que l'être humain comble le vide de la création parce que la création ne lui a pas donné de place précise. Ce qui semble significatif de notre temps, je crois, c'est que ce phénomène a surgi vers la moitié des années 60. C'est la transformation d'un état indésirable, être victime, être dans la condition de subir, être déclaré comme quelqu'un qui est fait ontologiquement pour subir, en quelque chose au contraire de désirable, qui donne des avantages rhétoriques, psychologiques, politique, éthique. Il y a un passage très révélateur, je crois, des mémoires d'Elie Wiesel, qui a survécu au camp de concentration, principal témoin de l'Holocauste en France et aux États-Unis, auquel Albert Camus aurait dit « Je vous envie pour Auschwitz ». Il y a un paradoxe dans cette affirmation, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit un peu modifiée. Comment peut-on envier quelqu'un de s'être retrouvé dans le pire endroit au monde pour un être humain ? Toujours Elie Wiesel, en 1967, à New York, avait dit « Mais pourquoi devons-nous avoir honte de l'Holocauste ? Nous devrions au contraire en être fiers. L'Holocauste est le centre de l'histoire du monde et nous avons eu le privilège divin de nous être trouvés là. C'est le point le plus glorieux de notre histoire idéale et éternelle. Qu'il le sache ou non, Elie Wiesel citait Giambattista Vico. Il est clair que quelque chose a changé. Tout le monde connaît, tous ceux qui ont lu les mémoires des rescapés connaissent cette terrible et injuste honte des personnes qui avaient vécu cela, et même la honte d'avoir survécu, et la lutte féroce de ceux qui avaient combattu, Primo Levi, Jean Améry, contre cette honte qui est injuste. Mais soudainement, sans passage dialectique, de la honte, on est passé à l'orgueil. Et c'est précisément dans ces années-là que, comme le dira Agamben dans Homo Sacer en 1985, une terrible exception dans l'histoire humaine, témoignage de ce que les humains sont capables de faire, un point extrême devient une sorte de paradigme. Le paradigme de la biopolitique, de la contemporanéité, n'est pas la ville, polis, mais le camp de concentration.
Oui, et ce que le livre montre, c'est qu'autour de ce terme de victime, on opère une réduction et de l'histoire, mais aussi de la définition de l'humain, à partir d'un point ultime qui régit tout le reste. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire l'histoire de cette réduction idéologique de la victime à un absolu, en montrant les termes qui ont été balayés de l'espace de la pensée dans ce même moment, dans ce même mouvement, et que vous nommez dans votre texte, et qui sont ceux de la résistance, pour parler de résilience, de résistance, mais aussi l'idée qu'il faudrait peut-être réhabiliter aujourd'hui contre l'image dominante de la victime, une autre image qui est celle du héros. Pourquoi est-ce que le héros disparaît ? Pourquoi est-ce qu'il ne peut plus, notre époque n'aime pas les héros du quotidien ?
Il libro comincia proprio con questa frase, la vittima è l'eroe del nostro tempo. È una frase che ha avuto un po' di fortuna perché è molto aforismatica e di per sé equivoca, tra l'altro, per cui come tutte le cose equivoche funziona meglio delle cose chiare. Io credo che dalla metà degli anni 60 il posto dell'eroe sia stato preso da una figura della passività, perché c'è stato sostanzialmente un passaggio, non è accaduto tutto in un giorno né tutto nello stesso modo, da una società incentrata da un capitalismo.
Le livre commence justement par cette phrase: la vittima è il héros de notre temps. C'est une phrase qui a plu, car elle ressemble à un aforisme. Elle est équivoque, et comme toutes les choses équivoques, elle plaît mieux que les choses claires. Je crois que depuis la moitié des années 60, la place du héros a été occupée par une figure de la passivité, parce qu'il y a eu, même si tout ne s'est pas fait du jour au lendemain ni de la même manière, le passage d'une société, d'un capitalisme centré sur la production, à autre chose. Le capitalisme et le socialisme se rencontraient sur l'idée de la production. L'homme est un producteur, c'est un producteur de lui-même. Il est ce qu'il fait. La production, disait Marx, ne produit pas seulement un objet pour un sujet, mais un sujet pour l'objet. À partir de l'affirmation aux États-Unis et au Royaume-Uni de ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui prenait modèle sur le marginalisme autrichien, on est arrivé à une idée de la société au centre de laquelle il n'y a plus le producteur mais le consommateur. Le bon citoyen est un consommateur satisfait, celui qui dispose de nombreuses marchandises parmi lesquelles faire son choix, et à partir d'un équilibre de la loi de l'offre et de la demande, se produit un état d'ordre. Le néolibéralisme ne se pense pas comme une politique, mais comme un cosmos, fondé sur la loi. Le centre passe du producteur au consommateur. Le consommateur est celui qui peut choisir entre différentes options qui lui sont données. En quelque sorte, il y a droit. Il a pris la place du citoyen souverain, c'est-à-dire acteur, révolutionnaire, car à l'origine, toutes les constitutions modernes sont nées d'actes révolutionnaires, d'un détrônement, d'une décapitation, d'une prise de pouvoir de la part du peuple, qui dit « Le souverain, à partir de maintenant, c'est nous tous ». Mais que se passe-t-il quand le consommateur devient le centre de la société ? Un sujet passif. Quelqu'un dont le droit principal est d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Ce n'est pas important de savoir comment. Ce qui compte, c'est que c'est la position d'un oiseau dans le nid, qui attend que sa mère lui apporte quelque chose à manger. C'est la position du nourrisson. Quelle est la seule arme de l'enfant agrippé au sein, quand le sein n'est pas là ? Pleurer. Il revendique son droit aux soins, à la nourriture. Comment ? En pleurant. C'est la seule chose qu'il peut faire. C'est la protestation du consommateur. Quand les biens de consommation diminuent, quand le cosmos néolibéral se rétrécit, tout le monde se découvre soudainement victime. Effectivement, c'est quelqu'un qui ne peut rien faire d'autre qu'attendre que quelqu'un d'autre vive pour lui. Son maître ou son esclave, une victime par définition, une condition de totale impuissance.
Vous écrivez ceci, dans la prosopopée de la victime s'opère discrètement une substitution, une superposition entre les temps, les points de vue, le sujet de l'énoncé et celui de l'énonciation. Le « nous » qui se cristallise et se renforce avec la douleur « est », mais à la fois n'est pas, comme dans les figures rhétoriques, le même que celui qui a souffert autrefois, celui qui parle en tant que victime ou au nom de la victime, se trouve toujours en situation de parler à la place de quelqu'un d'autre. C'est évident lorsque l'on parle au nom de ceux qui sont désormais muets. Mais cela est aussi paradoxalement vrai dans le cas où la victime parle pour elle-même. La victime l'est en premier lieu parce qu'elle est contrainte de se taire, ignorée, privée du pouvoir du langage. Parler est la première forme d'agency. La victime est un enfant, infants. Les nazis le savaient bien, si vous parlez un jour, personne ne vous croira. Mais l'obligation d'écoute, prévue par la loi, le procès est en soi le seul lieu où le droit de la victime à la parole est légitimement obligatoire, tout en étant un discours toujours partial, transplante la logique judiciaire au cœur de la vie publique et en outre, indique que nous sommes passés à une vitesse supérieure. Une fois à la barre, même les victimes les plus authentiques se transforment en représentation d'elles-mêmes. Nous sommes ici pour nous, pour ce « vous » que nous avons été, en tant que propriétaire de la vie d'un autre. Alors ce qui est remarquable, je trouve, dans ce discours, c'est qu'elle pose d'emblée la question du statut, de la possibilité de parler, mais au sens même du contenu de la parole, dans cette manière d'ontologiser le statut de la victime, y compris le statut du témoin est mis en cause, y compris le statut de la parole est mis en cause. Donc c'est vraiment une machine d'une perversion extrême qui se révèle autour de cette notion-là, dont l'extrémité explique peut-être pour quelles raisons il est difficile de la comprendre. Et c'est un enjeu que ce livre présente, dont il court le risque. Mais peu de livres osent à ce point interroger ce qui se passe autour de ce mot ou de ce terme de victime. Et donc c'est une des grandes raisons qui fait qu'il est extrêmement précieux. Un autre aspect de ces questions-là tourne bien sûr autour de la possibilité de reparler différemment de ce qui a eu lieu dans l'histoire, en essayant de ne pas ontologiser, rendre définitive, rendre absolue la question du discours historique. Où est-ce que vous voyez, dans quelle direction est-ce que vous voyez la possibilité de refaire fonctionner l'histoire d'une manière plus émancipatrice, dirais-je?
Ah, beh, come diceva Iago, io non sono che un critico. Diceva Marx, io non faccio ricette per la osteria del futuro. Sicuramente un passo può essere quello di distruggere una serie di mescolanze tra buoni argomenti e cattivi argomenti, tra diritti veri e diritti pretesi, che impastoiano, mettono dei ceppi addosso alla possibilità di pensarsi come agenti. Uno di questi, per esempio, è la memoria. Il pazzo che voi avete citato ha molto a che vedere con questa istituzionalizzazione della memoria, questo peso crescente che la memoria ha preso nel nostro discorso pubblico, sostituendosi quasi interamente alla storia. Quando la storiografia è sempre nata dalla memoria e contro la memoria. Io mi ricordo così, io invece mi ricordo così.
Come disait Iago dans Othello, je ne suis qu'un critique. Comme disait Marx, je ne fais pas de recette pour l'auberge du futur. Certainement, une des étapes serait de détruire une série de mélanges entre bons et mauvais sujets, entre droits vrais et droits prétendus, qui brouillent les contours du problème, mettent des freins à la possibilité de se penser comme des agents. Un de ces freins, par exemple, c'est la mémoire. Le passage que vous avez lu a beaucoup à voir avec l'institutionnalisation de la mémoire. Ce poids grandissant que la mémoire a pris dans le discours public, remplaçant presque entièrement l'histoire. L'histoire est toujours née avant la mémoire et contre la mémoire. On se souvient de ci, de ça, mais derrière toute mémoire, il y a un sujet intéressé, un ordre de pouvoir. L'histoire n'est contre le mythe, la légende, la rumeur, contre l'histoire qui légitime le pouvoir d'une dynastie, d'une caste. L'histoire, de ce point de vue, n'est toujours critique. Il est curieux que l'histoire ait été réintégrée sous la catégorie de la mémoire. Cela veut dire, c'est la mienne. La mémoire est toujours celle de quelqu'un. Même le problème délicat de la mémoire collective, catégorie créée justement en France par Pierre Nora, dit toujours que la mémoire a un propriétaire. Non seulement ton corps t'appartient, mais aussi ce qui s'est passé est à toi. Tu es le propriétaire, tu as le droit de dire la vérité. La mémoire court-circuite le discours de l'autre, le fait qu'il puisse dire « Non, moi, j'ai une autre mémoire ». Non pas que l'histoire s'assied comme un arbitre impartial, mais c'est une instance tierce, et la même chose se passe dans le champ judiciaire. Cela m'a beaucoup frappé quand l'ex-président français Nicolas Sarkozy a déclaré « Il faut remettre la victime au centre du procès ». Alors que le principe de toute civilisation juridique, c'est l'éloignement de la victime de la scène du procès. La société dit, c'est moi qui juge. Sinon, c'est la Fed, une reprivatisation de la justice. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que ces choses sont arrivées sans aucune opposition, voire même sous les applaudissements de tout le monde. Qui peut mal parler de la victime ?
On a l'impression que dans le statut de la victime, quelque chose a été escamoté, qui est non pas le statut de la mémoire, puisque c'est au contraire une essentialisation de la mémoire, mais le statut de complexe de ce que le latin appelle le grec plus exactement appelle le martus, le martyr, qui est autant celui qui se souvient que celui qui débat, qui dialectise son souvenir. Mmh. Et cette question de la possibilité de se dialectiser soi-même comme sujet historique, tout en ayant subi effectivement des épreuves, est complètement... c'est comme si on n'avait plus rien à dire et qu'on avait accueilli un absolu en étant... mais dans la tradition critique, enfin dans la tradition grecque, y compris évangélique d'ailleurs, il existe cette idée que le témoignage contient un raisonnement dialectique et la possibilité de ce raisonnement dialectique. Et c'est ça qui a disparu, en fait. La victime ne doit plus penser, ne peut plus penser, tant il est terrible de constater ce qui lui est arrivé. Le fait est que les victimes pensent, et elles pensent d'une telle sorte qu'elles ne veulent plus de victimes. Et donc on ne peut pas non plus leur dénier ce désir-là, et c'est pourtant, effectivement, la domination idéologique le leur nie. Est-ce que, par exemple, un film comme Shoah n'a pas contribué à la création d'une victime absolue? Parce que le statut du héros, de ceux qui sont évadés d'Auschwitz, hein, peu nombreux certes, mais sont extrêmement n'intéressent pas le film. Pourquoi?
Alors, in primo luogo, io credo che vittima e martire siano due cose completamente diverse. Il martire da Gesù Cristo a quelli che dicevano io non servo l'imperatore perché ho un altro, sta dalla parte dell'eroe, è qualcuno che ha preso parte. Un partigiano morto nella lotta contro il nazismo non è una vittima, è un combattente. A volte le cose nella vita vanno male, a volte si perde, faceva parte della sua scelta, ha fatto quello che ha voluto. E non credo che, da questo punto di vista, che il cristianesimo abbia niente di una religione vittimaria, perché si fonda sul sacrificio volontario, non di qualcuno che non voleva essere. Per quanto riguarda il film Shoah, no,
en premier lieu, vittime et martyrs sont deux choses très différentes. Le martyr a commencé par Jésus-Christ qui disait « Moi, je ne sers pas l'Empire romain » et du côté du héros. C'est quelqu'un qui a choisi son camp. Un résistant mort en luttant contre les nazis n'est pas un martyr, c'est un combattant. Des fois, dans la vie, les choses tournent mal. Des fois, on perd. Cela fait partie de son choix. Il a fait ce qu'il a voulu. Et en cela, je crois que le christianisme n'a rien d'une religion victimaire, puisqu'elle est fondée sur le sacrifice volontaire. En ce qui concerne le film Shoah, non, je ne crois pas. Je crois que le film est une représentation extraordinaire du vide qui vient après une Shoah. Shoah signifie « tout a brûlé », holocauste, désastre. Tout cela est lié à une circonstance biographique, à la personnalité, surtout vers la fin de Claude Lanzmann, qui l'a mené, après l'incroyable tour de force du film Shoah, à se considérer l'interlocuteur privilégié de tout ce qui concernait la Shoah. Par exemple, avec cette loi, entre guillemets, dite Lanzmann, qui dit que l'on ne peut pas représenter les chambres à gaz. Où cela est-il écrit? Où cela? Tout cela parce que l'immense autorité, la juste autorité que Lanzmann avait tirée de ce film, l'a mené à devenir un législateur qui donne et reprend la parole. Toi, tu peux parler. Toi, non. Ça, tu peux le dire. Ça, non. Si tu le dis, il faut le dire comme ça. Et toi, qui écoutes le récit des victimes, tu dois l'écouter d'une certaine manière. Un seul comportement t'est autorisé. Voilà un exemple extraordinaire, et je vous remercie de cette question, de la transformation de quelque chose de bon en quelque chose de mauvais. C'est l'inverse de la généalogie de la morale de Nietzsche. Nietzsche disait que les choses bonnes, à l'origine, étaient mauvaises. Quelque chose de bon qui soudainement devient un bâillon et surtout détermine la position de pouvoir de quelqu'un. Un pupitre à partir duquel on donne des autorisations aux uns et pas aux autres. C'est ça l'ambiguïté de la figure de la victime. Mais moi je crois que le mal était dans le sujet, non dans la personnalité de Lanzmann. Sa personnalité était entrée dans un dispositif discursif. Vous pouvez acquérir une position différente de celle de tous les autres. Vous n'avez pas les mêmes devoirs que les autres. Démontrer, convaincre, argumenter, être contredit. Tout le monde a ce devoir. L'être humain est un être qui peut être contredit. La victime, non. Elle a fait un saut anthropologique. Donc, un mal absolu devient un bien absolu, au sens de legibus solutus, le prince et délié des lois.
And these are things really are important enough to pay attention to.
Lorsque j'ai écrit mon livre sur Eichmann à Jérusalem, l'un de mes principaux objectifs était de détruire la légende de la grandeur du mal, de la force démoniaque.
that of the greatness of evil, of the demonic force of to take away from people.
De retirer aux gens l'admiration qu'ils ont pour les grands malfaiteurs comme Richard III. J'ai trouvé dans Brecht la réflexion suivante. Les grands criminels politiques doivent à tout prix être mis à nu et surtout être livrés au ridicule. Ce ne sont pas de grands criminels politiques, mais des hommes qui ont commis de grands crimes politiques, ce qui est quelque chose d'entièrement différent. L'échec d'Hitler n'indique pas qu'il était imbécile. Le fait qu'Hitler était un imbécile était une idée courante et fausse dans toute l'opposition avant qu'il ne prenne le pouvoir. De nombreux livres ont essayé ensuite de le justifier et d'en faire un grand homme. Le fait qu'il ait échoué n'indique pas qu'Hitler était un imbécile et l'envergure de ses entreprises n'en fait pas un grand homme. Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que toute cette notion de grandeur n'a pas d'application. Si les classes dirigeantes, dit Brecht, permettent à un petit escroc de devenir un grand escroc, il n'a pas droit à une position privilégiée dans l'histoire. C'est-à-dire que le fait qu'il devienne un grand escroc et que ce qu'il fait a des conséquences graves ne le grandit pas. Puis il dit, sur un plan général et de façon abrupte, on peut dire que la tragédie traite des souffrances de l'humanité d'une façon moins sérieuse que la comédie. Ceci est évidemment une déclaration choquante, mais en même temps, je pense qu'elle est parfaitement juste. Si l'on veut garder son intégrité en de telles circonstances, on ne peut le faire que si l'on se souvient, quoi qu'il fasse, et même s'il a tué 10 millions de personnes, ce n'est qu'un clown.
Oui, on est effectivement dans un renversement paradoxal du mal en bien, dont on peut légitimement tenter de se garder, même quand on a toutes les bonnes raisons de respecter l'histoire. Alors, c'est sur cette question de la production, de l'action, qui est le fondement même de la nature humaine que vous évoquez, que je voulais lire un passage de Critique de la victime. La première caractéristique de l'homme en tant qu'animal est en effet la double contrainte qui, en l'absence d'un environnement prédéfini et prédéterminé par l'instinct, comme c'est le cas pour les autres espèces, l'oblige à s'ouvrir à la contingence radicale d'un monde où tout peut devenir significatif. La culture étant justement là pour délimiter cette contingence à travers l'institution d'un réseau de symboles qui le circonscrit. Non pas que l'homme, comme le voulait l'anthropologie philosophique du XXe siècle, Gehlen, Plessner, Heidegger, vive au-delà de la nature, son faible instinct reçu en dot, son incapacité congénitale à distinguer l'intérieur de l'extérieur et le signal, ce qui est pertinent pour sa conversation, du bruit, ce qui ne l'est pas, tout cela est sans doute le résultat d'un parcours évolutif complexe qui n'a rien d'extranaturel, mais faire sortir d'un monde illimité un environnement vital n'est possible qu'à l'animal plastique, versatile, qui pour s'adapter doit continuellement se transformer au rythme de la réalité extérieure qu'il modifie, en incluant dans son propre espace d'action justement cette ouverture à la contingence illimitée qu'il propose d'exorciser. Non seulement la conservation de l'ordre établi, mais son continuel renversement sont des traits propres à notre nature. Naturellement artificiel, l'homme est aussi naturellement révolutionnaire. Le changement est son ipséité, l'identité est le contraire de la révolution. Alors c'est très, je dirais, fidèle au manuscrit de 1844 de Marx, ce qu'on lit là. C'est aussi d'une manière assez caractéristique dans votre discours la présence du terme plastique, du terme rythme, qui sont liés à la question de l'imagination, qui est elle aussi un agent indéterminé chez Kant, qui permet précisément de sortir de l'état de minorité ou de l'état de dépendance. Est-ce que finalement, la victime de la victime, c'est pas aussi la possibilité de s'imaginer et d'imaginer et de donner à l'imagination une vraie présence dans l'agir humain qui, est-ce que c'est pas finalement et un petit peu ça le problème de, c'est que la victime n'a plus droit à l'imagination.
Quando ho scritto il passo che voi avete letto, avevo in mente i temi fondamentali dell'antropologia filosofica del Novecento, Arnold Gehlen, Helmut Plessner, sì, lo stesso Heidegger. L'idea che l'essere umano, a differenza degli altri animali, è povero di istinti, è povero di istruzioni, non ha ambiente, cioè può vivere in tutti gli ambienti, non può far altro che trasformarsi, lo diceva già Rousseau, l'uomo è l'animale che naturalmente si denaturalizza, non può fare altrimenti, vive una continua apertura alla contingenza e tutte le volte che cerca di rinchiudersi in quella cosa che adesso si usa con un'altra parola feticcio del nostro tempo, cioè identità.
Quand j'écris ce passage, j'avais en tête les thèmes principaux de l'anthropologie du XXe siècle. Arnold Gehlen, Helmut Plessner et même Heidegger. L'idée que l'humain, parmi les animaux, est pauvre en instinct. Il n'a pas d'environnement, il peut vivre dans tous les environnements. Il ne peut rien faire d'autre que se transformer. Rousseau dit que l'homme est celui qui naturellement se dénaturalise. Il ne peut rien faire d'autre. Il vit dans une ouverture perpétuelle à la contingence. Et chaque fois qu'il tente de se replier vers, autre mot fétiche de notre temps, l'identité, il ne peut rien faire d'autre que la briser. C'est inévitable, c'est incompréhensible, car cela effraie. La contingence totale coïncide avec le néant. Nous avons tous besoin de repères, et il est alors vraisemblable qu'un temps comme le nôtre, un temps terriblement effrayé par la contingence, par ce qui arrive, comme disait Paul Virilio, qui cherche des points solides, des points sur lesquels on ne revient pas, absolus, pour être dégagé de l'obligation de devoir changer. Et encore une fois, de ce point de vue, la figure de la victime, une condition mauvaise, devient paradoxalement une condition désirable. Pour toujours, je serai ce que j'ai été, et cela me donnera des droits que tous les autres doivent conquérir chaque jour. Ce que la fin du XXe siècle et le début du nouveau millénaire ont montré, c'est que tout ce que nous croyons acquis pour toujours peut être remis en question. Non pas parce que l'on retourne au Moyen-Âge. Ça, c'est de la mauvaise historiographie. Mais parce que tout change. La victime, elle, ne change pas. Elle dit « Je continuerai à avoir un droit qui n'a pas de date limite, qui est imprescriptible, pour lequel il n'y aura jamais prescription. » Pour les autres, tout est toujours remis en question. La victime, ayant subi un jour un manque, soudain, a un moins qui devient un plus.
Page 83. Le fonctionnement bien lubrifié du statu quo. Que la victime soit devenue ce lubrifiant est à la fois une évidence et un paradoxe criant, alors qu'elle devrait être le scandale, le grain de sable dans l'engrenage, le point d'arrêt du système. La mythologie victimaire est une subalternité qui perpétue la domination. Penser qu'elles disparaîtront ensemble est non seulement une promesse impossible, mais une conception naïve du pouvoir. Mais voilà ce qui est inscrit à l'ordre du jour, et à chaque jour suffit sa peine. C'est aussi un confort intellectuel terrifiant. C'est un discours dont l'essence est terroriste. En fait, et sa perversion dont on a du mal à sortir, puisqu'on va être très vite qualifié de complice des bourreaux lorsqu'on critique la victime, enfin, c'est ce qui nous attend au tournant, vise en fait à prévenir de ce côté terroriste que le confort intellectuel du discours victimaire nous offre comme une sorte de position clé en main, de vérité absolue, alors même qu'on voit qu'il est le fruit d'une manipulation profonde qui vise à faire disparaître l'histoire dans un état des choses qu'on peut dire alors globalement néolibérales, mais qui vise à dire ne sois pas producteur de toi-même, ne sois pas producteur de ta liberté, ne sois pas modificateur de l'état des choses, et admets-toi tel que tu es, et même si tu peux, pourquoi ne jouerais-tu pas d'être la victime consentante ? Cette question-là, de la demande de consentement au statut de victime, est quelque chose de très important dans votre texte. Peut-être que vous pourriez commenter la mise en place de cette critique.
È importante questa questione che voi avete evocato del consenso. La percezione generale che l'ideologia neoliberale, neoliberista, vuole egemone è che quello che era l'azione creatrice, la creatività degli esseri umani, è migrata, c'è stata una traslatio imperi, è migrata al sistema. Quello che resta da fare agli umani è la cura, è la compassione. Questo lo diceva un filosofo italiano che ha avuto un suo momento di gloria, che si chiama Gianni Vattimo, credo sia conosciuto anche in Francia, che proprio nel 1979, quando finiva un grande ciclo...
C'est une question très importante que vous évoquez, celle du consentement. La perception générale que l'idéologie néolibéraliste veut hégémonique, c'est que le système se rénove tout seul. Ce qui était la fonction créatrice, la créativité des êtres humains, a migré. Il y a eu un translatio imperi. Elle a migré vers le système. Ce qui reste à faire aux humains, c'est le soin, c'est la compassion. Voilà ce que disait un philosophe italien qui a eu ses heures de gloire, qui s'appelle Gianni Vattimo, et qui a connu aussi en France, je crois, un peu de succès. En 1979, quand finissait un grand cycle de lutte de gauche après mai 68, il disait « Désormais, la nouveauté, c'est le système, il se renouvelle tout seul. » C'était une lecture rapide de Luhmann, peut-être. Ce qui nous reste à faire, c'est la compassion pour la souffrance. Au fond, dans les mêmes années, aux États-Unis, Richard Rorty disait les mêmes choses. Cela ne sert à rien de nous écharper à propos du concept de vérité. Essayons de rendre le monde un peu plus doux. Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs, rendre le monde plus doux. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Un ensemble de mouvements politiques très grossiers, qui sont appelés populistes, souverainistes, ou autrement encore, ont en quelque sorte remis au centre, bien que sous une forme que je crois hallucinatoire et mystificatrice, l'action des êtres humains, individuels et collectifs. Ce que, d'une certaine manière, les héritiers de l'émancipation se sont laissés prendre revient sous forme de symptômes dans l'histoire. Après qu'elle aura été forcluse, comme dit Lacan, la préclusion, elle revient dans l'histoire comme un symptôme, comme un train qui fonce vers vous, comme quelqu'un qui vous fait un croche-patte. Ce qu'on disait impossible, non seulement est possible, mais se retourne contre vous. C'est un discours terroriste, car le terrorisme n'est pas seulement, comme disait Barthes à propos du fascisme, ne pas permettre de dire, c'est obligé à dire.
Oui, tout à fait. C'est une pré-contrainte qui impose au discours d'aller dans un certain sens, qui est non pas celui de la négation, de la discussion, ou du débat, mais celui de l'autorisation de la parole à tout simplement exister. Alors, vous parlez des symptômes de l'action. Est-ce que, en face du discours de l'interdit victimaire de l'action productrice, je dirais, du poiein, de la poéticité humaine, qui est gravissime, est-ce qu'effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, parlons d'actualité, n'est pas la preuve contraire que cette poéticité continuera à exister, même si elle prend des chemins extrêmement confus, on pourra dire dangereux, on va vite, très vite dire productrice de nouvelles victimes, etc. Mais finalement, il y a une ironie terrible dans cette... L'action continue. On n'y peut rien, même bonne ou mauvaise, brouillonne, ou... Je veux dire, à un moment donné, les choses ne s'arrêtent pas. Est-ce qu'à ce moment-là, l'idéologie victimaire ne va pas être responsable d'un accroissement des problèmes ou d'une action qui ne pourra pas trouver la résolution de son conflit parce que une idéologie morale terroriste va venir rendre impossible de poser, de définir les termes même du conflit ou des conflits en cours.
Guardi, lei mi fa vedere delle cose che non avevo visto quando ho scritto il libro. Ringrazio molto anche per questa domanda. Mi rendo conto, parlando in questa conversazione, che l'ideologia neoliberista e l'ideologia vittimaria hanno un punto profondamente comune. Non c'è più nemico. Perché? Perché siamo tutti d'accordo. Al limite siamo un po' in concorrenza. Io sono più bravo a vendere computer, tu sei un po' più bravo a vendere calze o scarpe.
Écoutez, vous me faites voir des choses que je n'avais pas vues en lisant le livre. Je vous remercie beaucoup de cette question. Je me rends compte, en parlant dans cette conversation, que l'idéologie néolibéraliste et l'idéologie victimaire ont un point commun très profond. Il n'y a plus d'ennemis. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous d'accord. Au pire, nous sommes un peu en compétition. Moi, je suis plus doué pour vendre des ordinateurs, l'autre pour vendre des chaussettes ou des chaussures. Il n'y a plus d'ennemis, il y a une seule morale et un seul monde. Ce que le néofascisme est en train de répandre avec ses mots, sa rhétorique, c'est cette idée de l'ennemi. C'est quelque chose dont nous avons voulu nous débarrasser trop vite. La politique, c'est nommer l'ennemi. Voilà une triste, amère et machiavélique vérité. Prenons l'exemple de la Constitution italienne. La Constitution italienne a été créée par des constitutionnalistes qui avaient une idée à la Hans Kelsen. La Constitution est un instrument neutre qui construit un champ de jeu où tout le monde peut s'exprimer. Elle ne prend pas position. Après quoi, la Constitution italienne interdit dans ses dispositions finales le retour en Italie des héritiers mâles de la maison de Savoie et la reconstitution du parti fasciste. Tout ce que l'Italie était à ce moment-là, une monarchie avec un parti unique, fasciste. La Constitution inclut l'ennemi. L'idée de neutraliser à travers le consensus victimaire ou le cosmos néolibéral ce trait de la condition humaine, parce qu'il faut l'appeler comme ça, est profondément mystificateur. Et là maintenant, elle réémerge de manière barbare, terrifiante à mon avis, dans la réalité.
Merci beaucoup, Daniel et Marine, pour ce moment d'explication, de débat, de questions qui sont effectivement... celle de la nécessité de l'intelligence possible des conflits, hein, de la positivité de poser, de penser le conflit et de, par là d'ouvrir les médiations. Je ne suis pas le premier à dire que la disparition des médiations définit le fascisme. Et je pense qu'effectivement, il faut faire vraiment très attention à ces termes, cette stratégie discursive et ces termes fétiches de notre époque qui sont... qui vont dans le sens de la disparition de la médiation et de la non-prise en compte des conflits, et je dirais de la puissance poétique des conflits, aussi terrible que le terme puisse paraître à première audition. En tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous.